Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du magazine d'information. Ça s'appelle Le Carnet de région, avec un tour d'horizon, un petit tour d'horizon de l'actualité de la semaine, mais aussi à venir en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, avec vos radios associatives qui élaborent ce nouveau rendez-vous d'infos ce soir, avec au sommaire le salon des objets de créateurs. Ça s'appelle le salon Obart et reviennent à Montpellier, c'est tout au long de ce week-end. Nous en parlerons. Avec la mise en place du prélèvement à la source, il est nécessaire cette année encore de remplir justement cette nouvelle déclaration d'impôt sous forme de papier. Nous entendons pour cela les propos de Joseph Joschum, il est le directeur de la direction départementale des finances publiques, interrogé par nos confrères de 48FM. Montpellier, ville internationale contre le sida. Ce sera un sujet de nos confrères de Radio Aviva. Jeudi a été diffusé sur France 2 un si grand soleil exceptionnel. Une série dont le succès n'est plus à faire. La chaîne d'ailleurs qui a confirmé la saison 2. Gary Gainer, alias Théo Estrella de Un si grand soleil. Nous l'entendrons dans cette édition. L'association La Bulle Douche Nomade, qui doit inaugurer son camion le 15 avril prochain pour venir en aide au SDF, doit encore trouver des fonds. Et en toute fin d'émission, nous parlerons sport avec Delta FM, à savoir le championnat européen de foot en salle à Marguerite. Bienvenue dans le carnet de région, c'est l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Le salon donc Obart se tient tout au long de ce week-end à Montpellier avec une centaine d'exposants qui sont attendus pour présenter leur nouvelle création. Propos recueillis par François Charbonnel.
Je dirige la communication d'Atelier d'Art de France, c'est une organisation dont la mission est de promouvoir les métiers d'art en France, partout sur le territoire. Donc on est là vraiment pour faire connaître les métiers d'art et faire découvrir les œuvres de ces créateurs qui sont à la fois des artisans et des artistes. Et donc on essaie de se rapprocher du public à travers des salons, à travers des outils digitaux, à travers des boutiques. Il y a une boutique par exemple qui nous appartient à Pézenas ou encore à Montpellier où vous pouvez aussi également voir des objets de créateurs. Donc il faut aller en effet vers le public parce que les gens ne connaissent pas ou bien très bien ces métiers. Ils n'ont pas toujours la différence entre les métiers d'artisanat et les métiers d'artisanat d'art. Et donc là, face à cette rencontre qu'ils peuvent faire avec des créateurs, ils comprennent mieux ce que sont leurs spécificités et la qualité de leur travail.
Mais ça veut dire que finalement, le public ne va pas forcément de lui-même dans les boutiques des créateurs?
Non, pas forcément dans leur atelier. Vous savez, il y a à peu près 40 000 entreprises de métiers d'art aujourd'hui en France, donc il faut connaître l'adresse de l'atelier. Donc nous, notre rôle, c'est justement de faciliter cette transmission et cet échange entre le public et les créateurs, et donc les réunir ensemble dans un salon, comme on le fait à Montpellier, mais on le fait dans d'autres villes de France. Ça permet justement, là, de rencontrer plusieurs personnes en même temps et de savoir par la communication que l'on peut faire qu'il se passe quelque chose à Montpellier. C'est un moment important hein, pour Montpellier. C'est vraiment un salon de l'Occitanie, puisqu'on a à peu près 40% d'exposants qui sont des créateurs qui viennent de la région. On a aussi des créateurs étrangers, on a des créateurs qui viennent d'autres territoires. Donc c'est un moment de découverte et c'est vrai qu'avoir finalement le choix et se promener, déambuler dans les allées pour rencontrer l'ensemble de ces créateurs, c'est un moment qui permet cette découverte.
Justement, très vite, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver au salon à Montpellier?
Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Déjà, on va pouvoir retrouver 100 créateurs, donc qui quittent leur atelier pour venir exposer et venir vous rencontrer. Donc il y en a à peu près une centaine, 104 pour être précis. Et là, on va rencontrer, comme je vous disais, des gens qui font différents artisanats d'art, qui font de la verrerie, qui font du mobilier, qui font du bijou, qui font de la céramique, des arts de la table. Donc on va pouvoir échanger avec eux, on va pouvoir regarder leurs objets, comprendre comment ils sont produits, et puis évidemment pouvoir en acheter, puisqu'en fait ce sont des prix très raisonnables. C'est aussi ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'en fait les prix sont très très variés. On peut acquérir une pièce d'un métier d'art à partir de 15 ou 20 euros, et après ça peut monter jusqu'à 3 000, 5 000, 10 000 euros, en fonction évidemment de le côté exceptionnel ou de la taille de la pièce. Et bien évidemment, on rencontre ses créateurs, mais on va aussi participer à des animations, à des démonstrations. Vous pourrez voir notamment un joaillier au travail, ou un maroquinier, ou également un tourneur sur bois. Donc c'est aussi un lieu où on peut venir en famille pour justement essayer de comprendre ce que sont ces métiers et mieux comprendre comment ils fonctionnent, pour à la fois en effet acheter ou pourquoi pas se dire que demain on a envie d'en faire son métier et de faire ces formations-là.
Ah. pensez à faire vos déclarations de revenus. La date limite de dépôt approche. Vous avez au total jusqu'au 16 mai prochain pour le format papier et jusqu'au 28 mai pour la version numérique. Le document est à remplir que vous soyez ou non imposable et ce, malgré la mise en place du prélèvement à la source. Joseph Lochum, il est le directeur de la direction départementale des finances publiques.
Ça permet à ceux qui ne seraient pas imposables du tout, hein, qui seraient à un taux zéro, de bénéficier immédiatement, de pouvoir bénéficier immédiatement des avantages liés au dépôt, c'est-à-dire en fait l'actualisation éventuels des crédits d'impôt, réduction d'impôt. Ça leur permet également d'avoir un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'ASDIR, qui sert de justificatif qui sont demandés par les organismes sociaux en vue de bénéficier d'avantages sociaux, que ce soit la CAF, les mairies pour les tarifs de crèche, de cantine et autres. Donc l'intérêt de tous, c'est que tous déclarent. Tous déclarent, même quand on n'a quasiment rien à déclarer, hein, on déclare, mais on peut directement avoir les documents permettant de bénéficier d'avantages sociaux.
Et pour compléter votre dossier, des postes en libre-service sont installés à l'accueil des services des impôts. Un agent est bien sûr à votre disposition dans chaque agence pour vous accompagner dans votre démarche. Membre du réseau français des villes santé de l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, Montpellier confirme une nouvelle fois sa position d'acteur de la prévention et de la promotion de la santé autour de nombreuses problématiques présentes sur son territoire et auprès de tous les publics et aux côtés de l'ensemble des partenaires associatifs et institutionnels. Le programme Vers Montpellier sans sida amorce ainsi l'entrée de la ville dans le réseau mondial des villes internationales contre le sida, le Fast Track Cities. L'occasion de la signature de l'engagement de la ville de Montpellier dans ce réseau mondial. Camille Tabet a rencontré le professeur Françoise Barré-Sinoussi, marraine de l'événement, chercheur à la retraite. C'est elle qui, en 1983, a co-découvert le VIH. En 2008, elle recevra le prix Nobel de médecine. Aujourd'hui, elle est la présidente du SIDAction. Elle veut alerter sur la banalisation de l'infection, notamment chez les jeunes.
Nous sommes dans la semaine du SIDAction cette semaine et que, comme tous les ans, il y a un sondage qui est fait au moment du SIDAction et que son sondage clairement confirme les données de l'année précédente déjà, où les jeunes, pratiquement un quart d'entre eux, disent dans ce sondage eux-mêmes qu'ils se sentent mal informés vis-à-vis de l'infection VIH et vis-à-vis de la santé sexuelle globalement. Je pense que Montpellier, d'abord, dans le domaine du VIH, n'était pas associé au réseau globalement des villes sans sida, mais Montpellier travaille dans le domaine du VIH depuis très longtemps. Il y a déjà à Montpellier tout un réseau de milieux associatifs, un réseau de chercheurs, un réseau de médecins et de personnels soignants qui travaillent dans le domaine du VIH à Montpellier depuis très longtemps. Et j'en connais bon nombre d'entre eux d'ailleurs. Donc là, c'est une initiative de la ville elle-même, de la mairie, pour rejoindre finalement ce réseau des villes sans sida et d'y intégrer justement pas seulement le VIH, mais aussi les hépatites virales, mais aussi la tuberculose. Et c'est bien justement, parce qu'il n'y a pas de raison de faire du VIH quelque chose d'à part. Il faut de la prévention contre le VIH, de la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, l'hépatite C en étant une, par ailleurs, et puis une prévention contre la vaste majorité des pathologies qui affectent l'être humain. Je suis sûr, et c'est pour ça que je dis que Montpellier va arriver à un succès, parce que finalement, Montpellier a l'habitude de travailler en réseau justement de tous les acteurs qui se mobilisent contre une pathologie comme le VIH et comme contre d'autres. Il faut aller sur le terrain et on sait combien c'est beaucoup plus efficace quand on va sur le terrain. Là, c'est le rôle du milieu associatif d'aller sur le terrain. Moi, je dirais il faut même aller au-delà du milieu associatif. Il faut aussi, à travers des campagnes d'information, d'éducation et de prévention sur le terrain, mobiliser des jeunes eux-mêmes, des jeunes dans le milieu universitaire, dans le milieu scolaire, pour qu'ils passent le relais, ils passent le message. Mobiliser des jeunes personnes infectées par le VIH, par exemple, récemment, et qui parlent aux autres, et qui font partie du grand public sans pour autant appartenir à une association quelconque. Donc, c'est mobilisons tout le monde.
Je le disais dans les titres, jeudi soir était diffusé sur France 2 un épisode exceptionnel de la série dont le succès n'est plus à faire en ce moment, à savoir Un si grand soleil, dont les principaux acteurs et également les scènes sont tournées ici dans l'Hérault. La chaîne a d'ailleurs confirmé à nos confrères de Midi Libre, bien sûr, la saison 2. Entretien avec Gary Guénère, il est Théo Estrella, justement, dans les épisodes Un si grand soleil. Nous le rencontrons.
En ce moment, on tourne l'été, donc ça se passe super bien. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un vol parce que dans l'histoire, je travaille dans une entreprise en stage d'aviation. Donc, j'ai fait un vol. On a survolé la Grande Motte et tout. Et c'était génial. Et on prépare l'été, là, la diffusion de l'été, juillet-août, qui va arriver là, qu'on est en train de finaliser en ce moment. Comme je le disais l'année dernière, j'ai découvert cette région que je ne connaissais pas. Et je vis ici et j'ai passé l'hiver ici et ça se passe super bien. Et j'ai appris à vivre comme un Montpelliérain. Les Montpelliérains, ils sont hyper sympas, ils sont hyper accueillants, ça se passe super bien. Et tous les gens sont adorables, on a eu un super accueil avec la série, donc c'est génial. J'essaye de retourner voir ma famille, voir mes proches le week-end et puis aussi un peu pour le travail, parce que pour ne pas faire que de la série. Et je retourne quasiment tous les week-ends à Paris. Ouais. Alors moi, ce que j'aime beaucoup déjà, j'aime beaucoup l'ambiance Montpellier un peu fêtarde. Parfois, le soir, c'est sympa, la détente montpelliéraine. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la région. J'ai fait des randonnées de dingue près de Navacelles, le cirque de Navacelles, la Mourèze, le lac du Salagou, le pic Saint-Loup, etc. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a une douceur de vivre ici qu'on n'a pas à Paris, quoi. Bien sûr, on lance des propositions, mais là, déjà, on a tourné dans plein d'endroits. Comme je sais que la série va continuer, peut-être que oui, on va se retrouver un jour à être dans le cirque de Navacelles, ça serait génial. Ouais. L'endroit que j'ai le plus aimé, je dois dire que j'ai fait une randonnée, je sais pas s'il y en a un spécialement, mais j'ai fait une randonnée il y a 2 semaines au cirque de Mourèze, en arrivant au-dessus du lac de Salagou, et ça j'ai trouvé ça incroyable. Mais toute cette région là, les Cévennes, je trouve ça magnifique.
Merci à Gary Guénère, alias Théo Estrella, dans la série à succès de France Télévisions Un si grand soleil. Merci à lui d'avoir bien voulu répondre à nos questions. L'association La Bulle Douche Nomade doit inaugurer son camion ce 15 avril, c'est-à-dire lundi prochain. Elle va parcourir la métropole de Montpellier pour aller à la rencontre notamment des sans-domicile fixe, pour leur proposer une douche gratuite dans un camping-car, mais à terme, elle proposera aussi une aide administrative. Pour ça, elle a besoin de vous. L'association recherche notamment des fonds pour couvrir ses frais de fonctionnement ou alors encore des bénévoles pour participer aux maraudes.
Le 15 avril, ça va être l'inauguration de notre service d'hygiène mobile. Donc ce camping-car que nous avons acheté il y a quelques mois et réaménagé jusqu'à il y a peu de temps. Donc voilà, l'occasion de le présenter au public, qui puisse venir le découvrir avant effectivement de se lancer sur les routes pour les maraudes.
Un début de maraude, à quelle échéance ?
Incessamment, sous peu, autour de cette même date d'inauguration, on est en train de le préparer à pouvoir partir sur les routes, on est en train d'organiser une rencontre aussi avec nos bénévoles en parallèle pour voilà les fédérer et les sensibiliser à l'accueil du public de la rue, et ensuite on sera prêt à partir. Alors on peut pas donner une date exacte, mais voilà, c'est autour de ce moment de l'inauguration.
Justement, vous venez de parler des bénévoles. Vous recherchez encore des bénévoles ?
On recherche toujours des bénévoles pour effectivement pouvoir participer aux maraudes. Donc être dans le camping-car pour aller à la rencontre des personnes qui sont à la rue, mais aussi pour l'organisation de collecte, pour la formation, pour rechercher les fonds pour les fonctionnements. Voilà, toute compétence qui peut être apportée à la bulle est bienvenue. Ça peut être quelqu'un qui est mécano pour la partie camion, quelqu'un qui est coiffeur, esthéticienne, pour la partie accompagnement des personnes. Donc tout profil de personne est recherché et bienvenu pour prendre contact avec nous.
Et donc une recherche de bénévoles, mais pas seulement, il vous manque aussi un petit peu de fonds.
Oui, c'est ça. ça, c'est que pour faire fonctionner ce camion, on va avoir des frais fixes qui vont être voilà, les frais d'assurance du véhicule et de l'association pour y accueillir des personnes, tout ce qui tourne autour du véhicule qui est d'éventuelles réparations, le gaz pour chauffer l'eau pour la douche. Voilà, on a plusieurs frais fixes qu'il faut qu'on finance. Après, toute l'équipe est bénévole, donc on n'a pas de salariat à assumer pour l'instant, mais on a quelques frais de fonctionnement.
Si jamais un de nos auditeurs veut vous aider, ou en donnant son temps, ou en donnant un petit peu d'argent, comment est-ce qu'il peut vous contacter ?
Alors, on peut nous contacter donc directement soit sur la page Facebook, c'est tout simplement la bulle douche nomade. Après, il y a notre adresse mail sur laquelle on peut nous écrire aussi. Voilà, je pense que le plus simple, nous écrire par mail, et ensuite on peut voilà, rencontrer la personne pour discuter de la manière dont elle peut nous aider.
C'est inédit en Europe, la Ligue des champions du football en salle féminin, une première édition qui se tiendra à Marguerite du 20 au 23 avril prochain. Le président du club Marguerite, David, et une joueuse de l'équipe, Anaïs, en parle à Mélissa de Delta FM.
Le futsal est vraiment complètement différent, entre autres déjà du foot en herbe à l'extérieur, et ensuite est complètement différent aussi du foot en salle comme on peut le connaître dans des salles privées où on joue sur du synthétique avec soit les murs ou soit il n'y a pas de touche, voilà. Alors le futsal, on va dire de compétition, c'est vraiment un terrain de handball, c'est des touches, des corners, c'est des règles très strictes, et c'est vraiment un sport à part entière qui n'est pas la concurrence du foot à 11 en herbe, mais qui peut être complémentaire. Mais voilà, c'est vraiment un sport à part entière. Et surtout, c'est un sport qui se développe depuis 4-5 ans. Mais par contre, le futsal féminin, c'est encore plus récent. Voilà, vraiment, il y a eu un coup d'accélérateur il y a un an et demi, deux ans. Et on espère, en tout cas avec notre club, on espère pérenniser le futsal féminin, car c'est quelque chose de spectaculaire. On sait qu'aujourd'hui, il y aura bientôt la Coupe du Monde féminine en France pour le foot en herbe. Et le futsal est vraiment en marge. De toute façon, à n'importe quel niveau en France, le futsal est amateur. Il n'y a pas de professionnel encore. Mais on espère, par ces événements-là, comme la Ligue des Champions, on espère justement promouvoir ce sport et par la même occasion, faire un petit coup de pouce pour le sport féminin en général.
Anaïs nous explique comment elle en est venue à pratiquer ce sport.
J'ai commencé le futsal il y a 3-4 ans maintenant, parce que je suis gendarme dans la vie et ce métier me permet de faire du sport aussi à côté. J'ai intégré la sélection féminine futsal gendarmerie, du coup il y a 3-4 ans. Je ne connaissais pas du tout ce sport, c'est la première fois que j'y jouais et je m'y suis directement plu. J'ai préféré le futsal au foot. Il n'y avait pas d'équipe en dehors de la gendarmerie. C'est pour ça que quand Marguerite a décidé de faire un club, enfin de faire une équipe féminine, j'ai directement sauté sur l'occasion pour rejoindre cette équipe. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas assez d'équipes en France. Il n'y a pas beaucoup de clubs féminins, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent en championnat. On a un championnat qui est très pauvre en équipe, on est 5 équipes dans le championnat, donc c'est pas énorme. Mais en France, je ne sais pas combien on est, mais dans le championnat, on n'est pas nombreuses.
Au niveau compétition du futsal féminin, c'est vrai que dans le Gard, on est le seul club à avoir une équipe de futsal féminin engagée dans une compétition. Il y a des clubs qui font du futsal féminin loisir, mais pas dans la compétition. Et nous, on espère justement que le Gard, qui comporte de nombreuses équipes de futsal masculin, ces clubs-là, se développent sur le côté féminin, car plus il y aura de concurrence, et plus justement le niveau de futsal va augmenter.
C'est avec ce sujet sport que se conclut ainsi ce magazine régional. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, après quelques petites semaines de congé, nous nous retrouverons au mois de mai prochain. D'ici là, merci aux radios qui ont bien voulu participer à l'élaboration de ce magazine proposé par votre radio RCF Maglonero. Bon week-end à toutes et à tous. Passez une très très belle semaine. C'était le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Merci à vous de votre fidélité.